Studio Tamani, voici les informations en français.
Il est 18h, vous écoutez Adouf Tessit, l'une de nos radios partenaires depuis la gare des Ifugas. Bonsoir à tous, à la une de l'actualité. Deuxième visite du nouveau chef de gouvernement ce matin à la société Énergie du Mali. Il a été surtout question de s'enquérir des propositions de sortie de crise formulées par les travailleurs de la société. Les 11 leaders politiques après 5 mois de détention ont été libérés ce jeudi 5 décembre. La nouvelle est confirmée par les autorités. Le réseau des associations maliennes de lutte contre la corruption et la délinquance financière demande aux autorités de revoir la loi relative à la déclaration des biens. C'est à la suite du rapport 2023 de l'OCLEI. Ces titres vous seront détaillés dans un instant par Lala Diarra Touré. Philippe Dambélé assure la mise en onde. Bienvenue à tous. Le Premier ministre général de division Abdoulaye Maïga a rencontré ce matin les responsables de la société Énergie du Mali. Il s'agissait pour le chef du gouvernement de trouver des voies et moyens pour une solution à la crise énergétique au Mali. Au terme de la rencontre, les responsables de l'EDMSA ont formulé des recommandations parmi lesquelles le renforcement de la production énergétique locale et l'exploitation des opportunités offertes par l'énergie régionale. On en sait plus avec Lali Tangara.
Le directeur général de l'EDEM a profité de cette visite pour présenter une analyse de l'évolution de l'EDEM entre 2004 et 2024. Selon lui, malgré une croissance de 10% enregistrée sur cette période, celle-ci a fortement ralenti ces dernières années. Parmi les causes évoquées par le directeur, des difficultés d'approvisionnement, un déficit structurel persistant et une dépendance accrue aux subventions étatiques. À l'issue de cette rencontre, deuxième du genre depuis la prise de fonction du PM, des recommandations ont été formulées par les responsables de la société. Il s'agit notamment d'assurer la viabilité financière de l'EDEM, l'élaboration des stratégies à long terme et la mise en œuvre des actions immédiates pour stabiliser l'approvisionnement. Le premier ministre général de division, Abdoulaye Maïga, de son côté, a salué les efforts de mobilisation et l'engagement des équipes face à cette crise. Il a rappelé que cette rencontre sera suivie d'une autre réunion stratégique avec les partenaires sociaux. À noter que ces recommandations ont été élaborées par plus de 600 collaborateurs de la boîte.
Et après avoir rencontré les responsables de EDM, le chef du gouvernement a pris langue avec la société civile sur la crise énergétique ce jeudi matin à la primature. Abdoul Wahab Diakité, président de l'Association des consommateurs du Mali, a insisté sur la mise en œuvre des recommandations formulées tout en mettant l'accent sur des stratégies innovantes. Il est au micro de Lali Tangara.
Du côté de l'ASCOMA, nous avons dit d'essayer d'utiliser les énergies renouvelables et même pourquoi ne pas créer une ligne de crédit auprès des banques pour permettre aux ménages d'accéder aux installations solaires. Cette démarche, nous en sommes sûrs, sera inclusive parce que pratiquement tous les acteurs étaient là-bas et il était également accompagné par le ministre en charge de l'énergie et de l'eau. Il y avait également le ministre de l'économie et des finances. Alors que le problème de l'énergie, c'est en partie c'est le financement, mais une question également de vision. Donc il ne s'agit pas de prendre ces recommandations, mais il s'agit de les mettre en œuvre. Nous espérons effectivement qu'à la sortie de ces différentes rencontres, le Premier ministre aura certainement en tout cas le temps de s'adresser à la nation et de nous dire quand prendra fin la crise énergétique au Mali.
Chers auditeurs, vous pouvez réagir à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X, anciennement Twitter. Je vous le disais à l'entame de cette édition, après 5 mois de détention, les 11 leaders politiques ont recouvré la liberté ce jeudi 5 décembre 2024. La nouvelle a été confirmée par le Premier ministre lors de sa rencontre avec les partis politiques tenus cet après-midi. Cette libération fait suite à une série de démarches conduites par des acteurs politiques. Nous y reviendrons en détail dans nos prochaines éditions. Et sur un autre plan, à présent, dans le cadre de la campagne d'intégration des enfants non scolarisés et des jeunes migrants de retour. Une session de formation a été initiée ce matin à Bamako par le Centre d'information et de gestion des migrations. Selon les organisateurs, la mobilité des jeunes et des enfants dans cette situation n'est pas suffisamment prise en compte dans les programmes sectoriels de l'éducation et de la formation professionnelle. Compte rendu à Aberté.
Pour Dr Aboakren Aguissa, directeur du CIGEM, cette campagne offre des opportunités uniques pour intégrer les jeunes et les enfants en mobilité dans le développement local.
Cette initiative créera un cadre favorable pour l'amélioration de l'accès à l'éducation et à la formation professionnelle, pour la protection
des droits des jeunes et des enfants à mobilité, mais aussi pour l'élaboration des programmes inclusifs pour un développement local et durable.
Ces propos sont partagés par le ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, Moussa Agg Atayer. Il a invité les participants à comprendre les réalités humaines derrière les chiffres, les espoirs et les défis.
Ces formations témoignent de notre engagement collectif à renforcer la compréhension, la gestion et les opportunités liées à ces phénomènes complexes mais porteurs d'espoir.
La même activité est prévue dans les régions de Kulikoro, Kai, Sikasso, Ségou et dans le district de Bamako, où les participants seront dotés de compétences pratiques et de compréhension approfondie des dynamiques migratoires, promettent les organisateurs.
Allons à l'intérieur du pays à présent. Une rencontre d'échange sur la campagne agricole 2024-2025 s'est tenue hier à Niafinke. Selon le chef secteur agriculture, le cercle connaît des difficultés comme l'arrivée tardive de la crue, la forte pluviométrie par endroits, la crue exceptionnelle du fleuve Niger et aussi l'insécurité. Il a précisé que plusieurs hectares de champs de riz, de sorgho, de mil n'ont pas été productifs cette année. Les autorités comptent transformer ces difficultés en opportunités. Parlons du rapport 2023 des Loukli. Après la remise du dit rapport au président de la transition, les réseaux des associations maliennes de lutte contre la corruption et la délinquance financière demandent aux autorités la relecture de la loi relative à la déclaration des biens. Selon Moussa Ousmane Touré, président du réseau des associations maliennes de lutte contre la corruption, l'ignorance des textes et les manques de volonté politique ralentissent la lutte contre l'enrichissement illicite au Mali. Il est joint au téléphone par Moussa Agg Mahaha.
Il y a l'ignorance, il y a aussi le fait que la loi au lendemain de son adoption a été rejetée par l'INSEM. Il y a des sanctions et ces sanctions-là sont prévues à l'article 35 de la loi relative à la déclaration du bien. Celui qui refuse de déclarer, l'autorité qui l'a nommé doit les révoquer. Mais malheureusement au Mali, cela n'a jamais été le cas. On se pose des questions sur la volonté politique de lutte contre la corruption. Nous demandons aux autorités actuelles de relire la loi relative à la déclaration des biens. Les membres du CNT, jusqu'à présent, aucun n'a déclaré ses biens. Alors que les députés, les conseillers du CNT doivent, pour cette transition, donner le bon exemple.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL. Financé par l'Union européenne, les gouvernements du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
Place à présent au dossier de la semaine qui s'intéresse au snif ou encore appelé la poudre de tabac. C'est une substance à base de feuilles de tabac sèches et moulues. Bien qu'elle ait des effets néfastes sur la santé selon les médecins, elle est quand même consommée en majorité par les personnes du troisième âge. C'est pourquoi ces derniers préviennent sur les conséquences d'une consommation abusive qui pourrait provoquer une addiction. D'où vient le tabac consommé au Mali? Quelle est sa fréquence de consommation? Des éléments de réponse dans ce dossier réalisé par Jennifer.
Ce sont les maux de dents qui m'ont poussé à la consommation et c'est finalement devenu une addiction. J'ai cherché à arrêter, mais sans succès.
Moi, je commençais à consommer la poudre de tabac depuis ma jeunesse. On ne l'avale pas. C'est seulement pendant les journées de Ramadan que je n'en prends pas. Mais je suis pressée d'en prendre après la rupture.
Ces deux consommateurs du tabac rencontrés à Bamako et à Tominya évoquent un effet d'addiction qui s'est installé au fil du temps. Mais comment arrêter d'inhaler les tabacs, Dr Toumani Diakité, tradithérapeute, donne des astuces.
C'est une question de volonté. On sait que la consommation de ces produits-là est nocive pour la santé. Maintenant, la seule façon de faire le sevrage, c'est vraiment avoir le courage de laisser. Sinon, quand tu veux prendre des médicaments aussi pour vraiment enlever ça dans ton sang, il y a des médicaments traditionnels qu'on peut donner aux gens.
Les médecins de leur côté abordent sans détour les conséquences liées à la consommation de la poudre de tabac. Adama Bagayogo, médecin anesthésiste à l'hôpital CHU Gabriel Touré propose des centres de désintoxication pour le sevrage.
Comme la cigarette, ça peut poser des maladies respiratoires. Ça peut même évoluer vers le cancer des poumons. Il y a les moyens de sevrage. Il y a aussi des centres de désintoxication qui peuvent aider ces personnes-là.
La poudre du snif est cultivée et vendue au Mali. Les destinations sont multiples, indique ce commerçant rencontré à Sikasso.
La grande partie de notre snif vient de Kati. Du côté de Sikasso, on peut en trouver à Pléa. D'autres l'importent du nord de la Côte d'Ivoire, mais les gens préfèrent celle de Kati. Elle est forte. Ils amènent ça en poudre, mais aussi en
feuille.
Pour les traditionnalistes, cette substance est symbole de respect et d'hospitalité dans plusieurs localités du Mali. C'est ce que Mamadou Konaté, traditionnaliste, a laissé entendre.
Les gens doivent comprendre que la poudre de tabac ne fait pas perdre la raison. Avant, si on donnait le cola ou la poudre de tabac aux vieux, ils aiment ça plus que l'or. C'est un signe de respect. Quand on se rend dans les villages pour des missions et qu'on apporte ceci au chef de village, on peut être sûr que notre séjour sera sans souci avec la volonté de Dieu.
La consommation du tabac est une pratique ancestrale. Mais au regard des différents avis, il est préférable pour chaque consommateur de trouver le bon milieu pour une meilleure qualité de vie.
Faites-nous parvenir vos plaintes, avis, commentaires ou recommandations. Nous appelons 76 98 56 56. À Studio Tamani, nous attachons une grande importance à vos messages et nous nous engageons à les traiter avec diligence. Imrana Kulumaiga nous a rejoint dans ces studios pour l'introduction du débat. Imrana, bonsoir. Quel est le thème? Qui sont vos invités ce soir?
Bonsoir Lala Diarra Touré, ce soir il sera question du VIH-Sida, qu'en est-il de l'accès aux antirétroviraux? Et nous serons avec Mme Sidibé Tenekane, coordinatrice régionale de Koulikoro du réseau malien des associations des personnes vivant avec le VIH-RMA+. Dr Mamadou Cissé, directeur de la recherche communautaire à la direction générale de Arcade Santé+. Et Amadou Simaga, secrétaire exécutif régional du Haut Conseil national de lutte contre le sida du district de Bamako.
Voilà, c'est l'essentiel qu'il fallait retenir de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez les réécouter gratuitement et les magazines qui vont suivre en appelant les services Kounafoni au 37 321. C'est gratuit, vous devez seulement avoir 100 francs de crédit dans votre téléphone. Prenez soin de vous et des autres. Bonsoir. Le VIH-Sida n'est pas une maladie contractée uniquement par les adultes. Au Mali, au moins 1500 enfants naissent par an avec cette pathologie à travers la transmission mère-enfant. Cette indication a été donnée par les acteurs de la lutte qui affirment aussi que ces taux augmentent de plus en plus. Les organisations de lutte contre la maladie estiment que briser la chaîne de contamination reste l'un des défis majeurs dans la prise en charge des enfants. À cela s'ajoute la non-implication des jeunes parents dans la lutte. Enfants et VIH-Sida, c'est le sujet du magazine Tous les enfants du Mali. Il est réalisé et présenté par Aïssata Diarra.
Mon enfant, il a eu ça par la transmission mère-enfant. Quand je sais qu'il était malade, ça m'a trop touchée. C'est un innocent. Il n'a rien fait pour mériter cette maladie.
C'est le cri de lamentation d'une mère séropositive ayant gardé l'anonymat qui a vu son enfant naître avec le VIH-Sida. Un choc provoqué par le rejet de son enfant, par son entourage et la société.
La stigmatisation et la discrimination. Parce que quand les gens ont commencé à soupçonner que l'enfant était séropositif, on lui dit hey, il faut plus venir ici parce que tu es malade. Je ne veux pas que tu t'amuses avec nos enfants. Et ça me faisait du mal.
Les risques de la transmission du VIH de la mère à l'enfant ne reculent pas au Mali. Pourtant, le respect du traitement évite la contamination, avancent les médecins. Mais Dr Issiaka Moumine Kone, secrétaire exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida, explique que chaque année, plus de 1500 enfants contractent le sida à travers leur mère.
Ça, c'est vraiment inquiétant. Nous avons environ 1500, sinon un peu plus de 1500 enfants qui naissent au Mali avec le virus chaque année. C'est des indicateurs réellement qui nous inquiètent par rapport à la lutte. Sinon, la prévalence est quand même contenue par rapport aux différents dispositifs, aux différentes dispositions qui sont prises par l'État.
Cette mode de transmission s'explique par plusieurs facteurs, selon Dr Aliou Sila, président fondateur des Arcade Santé Plus au Mali. Notamment le non-respect des consignes données par les médecins pour protéger l'enfant pendant la grossesse.
Jusqu'à présent, on n'est pas parvenu à maîtriser la transmission de la mère à l'enfant. Il faudrait que l'information soit véhiculée. Les femmes
sont dans la position de refuser de faire le test. Parce qu'on va dire que c'est toi qui as amené le VIH dans notre famille.
Pendant la grossesse, les maris n'accompagnent pas les femmes. Au moment de la naissance, il y a des médicaments à donner pour éviter, malheureusement. Ou après, on leur dit, l'allaitement maternel, il faudrait que vous preniez des médicaments.
Une situation qui déteint aussi sur la prise en charge des enfants séropositifs. Dans certains cas, les médecins détectent tardivement l'infection chez l'enfant. Docteur Sawadogo Mahamadou Karamoko, médecin référent prise en charge en pédiatrie à Arcade Santé Plus.
Leur prise en charge médicale est difficile. Non seulement on leur donne des médicaments antirétroviraux, mais nous soignons d'autres maladies qui peuvent détériorer la santé des enfants. Aussi, au cours du traitement, on peut ne pas connaître les statuts sérologiques de l'enfant. Comment les lui faire comprendre? Ça, c'est l'une des difficultés. Il y a aussi la prise du sang, parfois pour savoir si le traitement est efficace.
Leur prise en charge n'est pas que physique. Elle est aussi psychologique. Luntani Sissoko est chargée de l'accompagnement psychosocial des enfants infectés affectés par le sida à Arcade Santé Plus. Elle explique les différents aspects de son domaine.
Les enfants, la plupart du temps, sont orphelins, soit de père, de mère ou de des parents. Pour ce qui est la prise en charge psychosociale, c'est d'accompagner ces enfants à comprendre la maladie à travers l'annonce qui est un processus. Et puis à partir de 7 ans, forme l'enfant à adhérer à son traitement. Les week-ends, on amène les enfants en dehors de Bamako en week-end thérapeutique. Il y a les activités récréatives.
Une solidarité agissante en faveur de ces enfants atteints par le sida, c'est le plaidoyer du docteur Ali Yossila, président fondateur de Arcade. Car selon lui, ces innocents sont aussi l'espoir du pays.